On invite les enfants à monter, s'il vous plaît. Tournez avec moi, je vous prie, dans Matthieu 18. Matthieu chapitre 18, si vous êtes en visite ce matin, vous n'avez pas une Bible avec vous, levez la main si vous voulez suivre, d'accord? Les placeurs vont s'avancer, vont vous apporter une Bible dans Matthieu 18, s'il vous plaît. Alors, s'il y a des mains levées, on va vous apporter une Bible dans Matthieu 18 pour que vous puissiez suivre ce matin. Ce matin, on termine le chapitre 18. C'est la troisième prédication qu'on passe dans ce chapitre. On va couvrir les versets 15 à 20. Alors, si vous vous joignez à nous, je vous encourage soit à aller sur le site Internet ou quelque chose de semblable, ou tout simplement vous procurer les CD pour pouvoir placer ça vraiment dans son contexte. C'est très important pour bien saisir le passage qu'on regarde ensemble ce matin. Matthieu, chapitre 18, les versets 15 à 20. Je vais en faire la lecture avant qu'on passe à un mot de prière. Matthieu 18, 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce matin avec des actions de grâce dans le cœur. Parce que tu nous as donné une famille, Seigneur. Ta famille. Tu as dit, Jésus, que ceux qui marchent à ta suite sont tes frères, tes sœurs, ta mère. Seigneur, tu nous as donné une famille pour grandir. Grandir à ton image, Jésus-Christ. Cette famille ne vit que par ta grâce, Seigneur Jésus. Cette famille continue de vivre que par ta grâce. Tu as promis, Seigneur Jésus, voilà plus de 2000 ans, que tu bâtirais ton assemblée, ton église, ta famille, que tu te donnerais un peuple nouveau, qui vive différemment. Par ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour entendre ce que tu as à nous dire. Tu as parlé et tu parles encore par ta parole, par ton Esprit Saint, Seigneur. Alors, notre prière est que tu viennes appliquer ces paroles dans nos cœurs, à chacune de nos vies, dans notre histoire, dans ce que nous avons vécu. Et Seigneur, plusieurs dans cette assemblée ont une histoire par rapport à ce texte. Certains ont tenté d'aller vers un frère, d'aller vers une sœur. Et ont renoncé à vivre cette sagesse qu'il y a dans ce passage pour toutes sortes de raisons. Certains, Seigneur, n'ont jamais osé essayer de vivre et d'appliquer ce passage pour toutes sortes de raisons. Certains, Seigneur, ne vivent pas l'intimité avec la famille de Dieu que tu veux qu'ils vivent pour toutes sortes de raisons. Viens nous parler ce matin. Viens nous parler de ta famille, Seigneur. De l'amour qui doit y être et combien on doit veiller les uns sur les autres pour se préparer à ton retour, Seigneur. Viens nous encourager ce matin. Père, j'aimerais te prier pour M. Famelan qui est à l'hôpital aussi. Plusieurs ACV déjà. Son corps crie, Seigneur, pour ta présence depuis des années. Et pourtant, il continue à prêcher jour après jour l'Évangile, si souvent, Seigneur. Je te prie, Père, pour son rétablissement, pour notre joie. Je te prie, Seigneur, de fortifier Mme Famelan, de lui donner des forces alors que les années passent, que les épreuves de santé se multiplient. Viens lui accorder encore et encore ta grâce, Seigneur. Viens nous aider à être autour de M. et Mme Famelan, à les entourer, à les aimer, à les chérir. J'aimerais te prier, Seigneur, pour cette dame Gisèle qui est atteinte par ce cancer, Seigneur. Viens la fortifier en toi, Seigneur. Elle croit en toi. Elle se confie en toi. Viens lui accorder sa grâce. Ta grâce, Seigneur. J'aimerais te prier, Père, pour tous ceux et celles qui sont retenus par la maladie à la maison. Viens les rencontrer ce matin. Ceux qui se sont éloignés, Seigneur, et qui ont besoin qu'on aille vers eux, les aimer, les ramener à la bergerie, Seigneur. J'aimerais te prier pour ceux qui sont arrivés ici ce matin, l'âme découragée, l'âme lourde, appesantie par des épreuves, des combats, des péchés, des défis. Viens les rencontrer ce matin, Seigneur, et que la communion des saints, la présence au milieu de la famille de Dieu soit pour eux un baume, un encouragement. Donne-leur une parole d'encouragement ce matin, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles qui sont arrivés ici savourant ta grâce. Viens nous faire grandir. On veut plus de toi, Seigneur, comme nous l'a dit Célia. Prépare nos cœurs pour cet automne, pour prendre soin de ces enfants, Seigneur, pour leur exposer ta parole alors que cette société leur dit que ta parole n'est qu'un facteur culturel, pour leur dire que tu es Dieu, pas seulement un élément culturel, Seigneur. Alors prépare nos cœurs à servir auprès des enfants cet automne, à revenir en force au cours biblique, Seigneur. Et garde-nous près de toi cet été. Plus près de toi, Seigneur. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez le proverbe sénégalais? Je l'ai vu utilisé à différentes sauces. Là. Puis si j'ai bien fait mes recherches, il est sénégalais. D'accord? Alors peut-être qu'il y a des Africains qui vont venir me corriger après. Il y a un proverbe supposément sénégalais qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Vous avez déjà entendu ça? C'est un beau proverbe. Il faut tout un village pour élever un enfant. C'est assez contre-culturel pour le Québec, n'est-ce pas? Mais c'est un peu ce que Jésus est en train de dire ici dans ces versets-là. Il faut toute une église pour faire un disciple de Jésus-Christ. Il faut toute une communauté pour faire un disciple de Christ. C'est ça que Jésus est en train de dire dans ce passage, tout simplement. Maintenant, je sais qu'on vit dans une société qui est profondément individualiste. Quand on se prépare à enseigner la parole de Dieu, on lit le passage, puis à un certain moment donné, on dit, mais avec quelles lunettes les gens vont lire ce passage dimanche prochain? Quelles lunettes ils ont devant les yeux qui vont faire qu'ils vont être souriants en lisant le passage ou réticents? En lisant le passage. Bien, on vit dans une société profondément individualiste où chacun a sa vie privée et personne ne veut que le voisin vienne mettre le nez dans ses affaires. C'est vrai? C'est notre société. Puis honnêtement, ça fait bien notre affaire. Non? Ça ne me tente pas tout le temps que le monde vienne mettre le nez dans mes affaires. Alors, quelque part, ça fait notre affaire. Et c'est spécialement vrai ici au Québec en matière de foi et de moralité. C'est de plus en plus vrai un peu partout dans l'Occident. On n'est pas si exceptionnel que ça. On est en Occident, c'est du chacun pour soi. Même les parents n'ont plus le droit d'imposer quoi que ce soit à leurs enfants. Et je ne pense pas exagérer quand je dis ça. En termes de foi et de moralité, de moins en moins au Québec. En plus, au Québec, on a notre petite histoire à nous, qui est celle-là particulière quand même, il faut l'admettre. On a notre petite histoire où le curé du village venait visiter mes arrière-grands-parents s'il passait 2 ans sans avoir des enfants. Parce qu'il y avait quelque chose de louche là-dessous. Les plaisirs de la chair l'emportaient peut-être. Et tout le village passait dans le confessionnal pour aller voir le curé et raconter leurs secrets. Maintenant, il y avait certainement des bons curés, mais vous admettrez que c'est beaucoup de pouvoir dans les mains d'un homme, ça. Sur un village, un curé qui entend les confessions de tout le monde. Imaginez le pouvoir et imaginez ce que ça peut donner. Et vous en avez des histoires. Alors, vous savez, l'Église qui commence à se mêler de ma vie privée, on a déjà donné au Québec. Ça ne nous intéresse pas, ça. On y a déjà goûté à celle-là. Et je pense que ça, c'est la pensée qui représente une génération entière. Non? Je pense que ça résume la pensée d'une génération entière. Maintenant, on est rendu plus loin encore. Alors, c'est sûr, il y a les boomers qui ont ces histoires dans leur propre vie personnelle et chez leurs parents, chez leurs grands-parents. Mais il y a les nouvelles générations aussi. La révolution tranquille, c'est plus hier. Moi, je ne l'ai pas connue. Moi, j'ai connu ce qui a suivi ça. La révolution tranquille est derrière, l'exode de l'Église catholique est en arrière. Et ce qui avait commencé peut-être comme une réaction à certains abus, sûrement, a laissé place à d'autres excès maintenant. L'être humain est comme ça, n'est-ce pas? C'est le balancier. On va d'un bout à l'autre. Et ça a donné place à d'autres excès. Alors, c'est chacun pour soi. Et vous savez, on prend goût à cet isolement-là. Lorsqu'on dit, tu n'as pas d'affaire à rentrer dans ma vie, on bâtit éventuellement des remparts autour de notre vie. C'est confortable, ça. On y prend goût. De dire, ça, c'est ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas d'affaire à rentrer dans ma vie privée. Et on se bâtit une muraille, un petit royaume à soi. Et si quelqu'un ose franchir cette muraille et venir s'ingérer dans ma vie privée, on monte sur ses grands chevaux parce que c'est inacceptable. On ne fait pas ça, entrer dans ma vie privée. De quoi tu te mêles? Dans la Bible, il y a un beau proverbe. Un autre proverbe, celui-là, tiré de la Bible, du livre des Proverbes d'ailleurs, qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Moi, je trouve que ça représente encore mieux même les nouvelles générations. Non? Chacun pour soi, chacun peut déterminer ce qui lui plaît et donc ce qui est bon pour lui. Chacun se tient à l'écart et décide pour lui-même sans avoir à rendre compte nécessairement, certainement pas à ses parents ou à des proches ou à la société. Il y a toute une partie qui est la vie privée. Et chacun choisit si ça lui plaît, c'est bon pour lui. Si ça lui déplaît, ce n'est pas bon pour lui. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Maintenant, est-ce que tout ce qui me plaît est bon pour moi? Nécessairement? Moi, j'aime énormément les cherry blossoms. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'aime les cherry blossoms. Ça existe encore. Est-ce qu'il y en a qui aiment les cherry blossoms? Ah non, il reste quelque chose. Vous savez, j'aime le chocolat noir, hein? Puis vous pouvez mettre plein de sucre devant moi, ça ne m'attire pas. Mais une cherry blossom, je ne sais pas, c'est comme... Ouf, le chocolat noir est même pas bon à côté de ça. J'ai essayé de faire goûter ça à mes enfants, je suis super content, ils n'aiment pas ça. J'aime les cherry blossoms. Jeudi soir, après le sport avec mes enfants, on est arrêté au dépanneur, je me suis acheté 2 cherry blossoms. J'allais faire du sport quand même. Pour remplacer quelque chose? 2 cherry blossoms. peut-être scraper quelque chose. J'en ai mangé juste une ce soir-là. D'accord? Ça, c'était jeudi soir. Alors, vendredi soir, j'ai mangé ma deuxième cherry blossom. Samedi matin, on est retourné faire du sport avec les enfants. Après le sport, j'ai acheté mes deux cherry blossoms. Parce que j'aime les cherry blossoms. J'en ai mangé une hier soir. Il m'en reste une qui m'attend. J'aime ça. Est-ce que c'est bon pour moi? Peut-être pas autant que ça, hein? Je ne sais pas c'est quoi les cherry blossoms qu'il y a dans votre vie que vous ne voudriez pas que les autres connaissent et que vous aimeriez mieux garder dans votre vie privée. C'est ça être prédicateur, hein? Des fois, tu n'en as comme plus là, de vie privée. Je ne sais pas c'est quoi les cherry blossoms qu'il y a dans votre vie que vous ne voudriez peut-être pas que les gens connaissent. Mais c'est évident que tout ce qui nous plaît n'est pas nécessairement bon pour nous. Voyez-vous ce proverbe qui vient du livre des Proverbes, ce n'est pas le proverbe sénégalais, se termine pas avec « celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît ». Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Parce que se tenir à l'écart, on peut le faire aussi tout simplement parce qu'on ne veut pas que les gens viennent mettre le nez dans nos affaires. On peut le faire tout simplement parce qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne nous confronter avec nos contradictions, avec nos inconséquences. On ne voudrait surtout pas que quelqu'un nous aide à nous voir nous-mêmes. Il peut y avoir une vraie folie à se tenir à l'écart et à chercher ce qui nous plaît. Il peut y avoir une vraie folie là-dedans. Et il y a dans notre société un culte de la vie privée et du chacun pour soi à outrance. Et c'est là dans notre société et ça entre dans nos vies. Et je vous le dis, il y a bien des sociétés qui trouveraient ça étrange. Bien des sociétés qui trouveraient ça bizarre, là où on est rendu. C'est sûr que je peux me tenir à l'écart parfois, comme Jésus le faisait. Hein? Jésus allait à l'écart pour prier, pour méditer. Il était seul avec son Dieu, avec son Père céleste. Il prenait du temps à l'écart. Des fois, ça peut arriver que je prenne du temps à l'écart, où personne ne va pouvoir me conseiller, je vais être seul avec mon Dieu. Ou simplement, si vous êtes comme moi, pour vous arrêter dans un parc et lire un bon roman. Il y a du monde qui passe, mais t'es tout seul. C'est correct. Mais ce n'est pas un style de vie. Mon style de vie n'est pas de me tenir à l'écart. Pourquoi? Parce que j'ai renoncé à ces dieux de l'individualisme à tout prix et de la vie privée à tout prix. Ce n'est pas mon style de vie. Ce n'est pas mon style de vie parce que j'ai compris qu'être un disciple de Jésus-Christ, c'est vivre avec la famille de Dieu, en communion avec la famille de Dieu, en donnant la permission à la famille de Dieu d'intervenir dans ma vie. Et j'ai choisi d'être un disciple de Jésus-Christ. Alors j'ai renoncé à ces dieux-là, au dieu de l'individualisme à tout prix, de la vie privée à outrance, qui ne permet à personne d'intervenir dans ma propre vie. J'ai renoncé à ces dieux-là. À ces idoles qui viennent me chuchoter à l'oreille, « Laisse personne te dire ce qui est bon ou pas bon pour toi. » Par la grâce de Dieu, j'ai renoncé à cela. Et j'ai choisi de me joindre à une église et de suivre cette église et de permettre à cette Église d'intervenir dans ma vie de toutes sortes de manières. Je vais tisser des relations dans cette Église-là, et inévitablement, cette famille-là va intervenir dans ma propre vie. Parce que je suis convaincu que ça prend toute une communauté pour faire un disciple de Jésus-Christ. Et j'ai renoncé à ces dieux de l'individualisme. C'est de ça dont Jésus parle au chapitre 18. Honnêtement, c'est de ça dont il parle. En gros, c'est ça. Pourquoi est-ce que je prends tellement de temps pour illustrer ainsi et introduire ces 6 versets? C'est parce que tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas renoncé à ces dieux-là, que sont l'individualisme à tout prix, la vie privée à tout prix, le chacun pour soi à tout prix, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas renoncé à ces dieux, vous n'arriverez pas à saisir la sagesse divine qu'il y a dans ce passage. Vous ne pourrez pas l'apprendre. Ça va vous faire réagir. Vous allez réagir à ce passage et vous ne verrez pas la grâce qu'il y a dans ce passage. Parce que ces idoles-là dans votre vie ne vous permettront pas d'écouter la sagesse qu'il y a là. Ces idoles ne vous permettront pas de vivre cette communauté qu'il y a là, cette communion qu'il y a là. Elles vont vous empêcher de toute leur force de grandir spirituellement et elles vont vous garder dans un certain isolement. Et ça, vous pouvez le vivre en restant dans l'Église. Vous pouvez aller dans une assemblée évangélique tous les dimanches et vivre dans l'isolement. Vous savez ça? Vous pouvez aller dans une assemblée, et plus l'assemblée est grosse, plus c'est facile. Vous pouvez fréquenter une assemblée régulièrement et vivre dans un isolement absolu du peuple de Dieu. Vous n'êtes pas en communion avec les frères et sœurs. Vous pouvez le faire en ne vous attachant pas à une assemblée. En vous promenant d'église en église. Juste assez pour qu'on ne vous connaisse pas vraiment. Et que l'Église ne puisse pas exercer son ministère véritable envers vous. Le ministère de la parole, le dimanche matin, le ministère de la louange, c'est 10% du ministère que l'Église doit exercer envers les frères et sœurs. Le reste se vit dans la communion avec les saints, avec les frères et sœurs. Ou vous pouvez le faire en allant juste une fois de temps en temps dans une église. Et vous allez être juste à côté de la bénédiction, sans jamais la saisir, parce qu'il y a ces idoles dans votre vie qui ne veulent pas que vous vous attachiez à une assemblée et que vous entriez véritablement en communion avec les chrétiens. Ces idoles vous empêcheront de vous joindre à un petit groupe. Tu pourrais être connu. On pourrait découvrir tes cherry blossoms dans ton garde-manger. Ça se pourrait que tu ne puisses plus en manger autant par semaine parce que le Seigneur va commencer à te parler. Qu'est-ce qui a amené ces idoles dans votre vie? Toutes sortes de raisons. Des blessures, des offenses, de l'indiscrétion. Vous vous êtes ouvert un jour à un frère ou à une sœur parce que vous viviez quelque chose de difficile, puis dans un excès de zèle, il a jugé bon que toute l'Église se mette à prier pour vous. Puis il en a parlé à ses 6 amis, qui en ont parlé à leurs 6 amis. Et là, vous avez décidé que c'était fini. Une idole est peut-être entrée dans votre vie à ce moment-là. Je vais aller à l'église, je vais recevoir de l'enseignement. Pour le reste, je m'arrange avec toi, Seigneur. Des blessures, des offenses, les péchés des frères et sœurs, des fois. Vos propres péchés. Je vous le dis, ces idoles-là ne veulent pas qu'il y ait une certaine transparence qui s'installe dans votre vie. Elles ne veulent pas cela. Les idoles sont des maîtres cruels qui vont vous empêcher de grandir. Comment elles sont rentrées? Par des blessures, par des offenses, par des péchés, par vos propres péchés, toutes sortes de raisons, mais elles vont vous garder dans cet état d'isolement et vous priver de cette sagesse divine qu'il y a dans le passage. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Pour comprendre le verset 15, pour accepter la sagesse qu'il y a dans ce verset-là, il faut garder à l'esprit les versets 11 à 14. 11 à 14. « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Verset 11, « le Fils de l'homme, Jésus, Jésus-Christ, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Verset 15, « Si ton frère a péché, va, reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Jésus-Christ est venu pour sauver ce qui était perdu. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Le Père est là, a choisi des enfants qu'il a donnés à son Fils. Son précieux Christ a donné sa vie pour eux. Et le Père est là, il veut qu'aucun ne se perde. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu l'as ramené dans la bergerie. Tu l'as ramené à la maison. Celui pour qui Christ est mort. Celui pour qui Christ a versé son sang. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Si je vois mon frère qui commence à glisser, qui commence à retourner à son ancienne vie, qu'est-ce que je dois faire si je vois mon frère qui commence à ralentir dans sa course? Dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, l'image nous est donnée pour parler des croyants du coureur. Nous sommes un peloton de marathoniens qui courons ensemble. Et comme l'apôtre Paul le dit ailleurs, pour saisir Christ, nous sommes dans cette course jusqu'à la fin pour saisir Christ. Nous formons un peloton, une course. Qu'est-ce que je vais faire si je vois mon frère qui commence à ralentir, à perdre son rythme de course? Parce que l'image que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous donne pour parler du péché, c'est celle d'un poids qui vient s'agripper au dos d'un coureur. C'est un fardeau qui vient et qui n'est pas seulement déposé, il vient, il se saisit de toi, il t'enveloppe et progressivement, il te ralentit dans ta course. Il casse ton rythme. Alors, qu'est-ce que je vais faire si je vois mon frère ou ma sœur, qui est un autre de ces petits-enfants de mon Père céleste, qui est en train de courir avec le peloton avec moi, puis je vois à un moment donné, Yannick commence à ralentir dans sa course. Il perd son rythme. Il cherche son air. Il veut juste prendre une pause un instant. Juste s'arrêter un moment. Oh, il faut que vous lisiez Le Pèlerin de John Bunyan pour comprendre de quoi je parle ici. Juste me reposer un petit peu parce que la course est longue et fatigante. Et c'est vrai qu'elle est fatigante des fois. Je vais juste m'arrêter un petit peu. Juste un peu. Le peloton va continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si je vois mon frère qui est ralenti dans sa course? Est-ce que je vais rester indifférent puis je vais le laisser aller? Vous savez, le péché a un pouvoir d'aveuglement absolument extraordinaire. Si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire de David. David, un homme de Dieu incroyable, qui était passionné pour Dieu, qui avait vraiment le cœur à la bonne place, mais à un moment donné, il a déposé les yeux à la mauvaise place. Sur une femme qui n'était pas la sienne. Et il l'a convoité. C'était un roi. Il l'a invité chez lui. On ne dit pas non à un roi. Il est allé vers cette femme. Un enfant s'en venait de cette relation. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le pouvoir de l'aveuglement du péché. Cette femme est mariée. C'est un des soldats de David. Qu'est-ce que David va faire? On va essayer de s'arranger pour que ça passe au moins comme l'enfant de cet homme-là. Il a fait revenir l'homme de la guerre plus tôt, pendant que l'armée était au front. Viens, il a trouvé un prétexte, puis il a dit, écoute, tu es ici, tu es à Jérusalem, tu es un super soldat, prends une nuit à la maison avec ton épouse. C'est un homme d'honneur. Il a dit non. Les autres sont en train de mourir au front, puis moi je vais me reposer. Jamais. Ça va mal, hein? David l'a renvoyé au front, il a donné des ordres pour que cet homme meure au front. Elle est veuve, je vais la prendre pour femme. David, C'est David qui chantait des louanges, qui a écrit les psaumes. Son cœur était connecté avec Dieu. Comment il a pu faire ça? Le péché nous enveloppe si facilement. Si facilement. Il a fallu que Dieu lui envoie son ami, le prophète Nathan, pour que ses yeux s'ouvrent sur son péché. Qu'il se repente et que Dieu lui fasse grâce. Le péché a un pouvoir d'aveuglement incroyable, les amis. Et souvent, on va pécher, on va faire quelque chose et on ne s'en rendra pas compte. Soit vraiment parce qu'on ne le voit pas, soit parce que ça ne nous tente peut-être pas de le voir. Mais c'est là où me ferez pas croire que David ne savait pas qu'il faisait le mal. David savait qu'il faisait le mal. Mais à quelque part dans le processus, il a réussi à se convaincre qu'il pouvait continuer à être roi et s'en sortir comme ça. Alors des fois, on ne le voit pas. D'autres fois, on l'entrevoit, mais on ne veut pas le voir. Le péché a ce pouvoir d'aveuglement incroyable. Et j'ai besoin des yeux de mon frère et des oreilles de mon frère pour voir ce qu'il voit dans ma vie, pour entendre ce qu'il entend dans ma bouche. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. C'est juste ça que Jésus est en train de dire ici. Il est en train de dire qu'on est des petits-enfants et que nous avançons ensemble, humblement. Et lorsque tu replaces le passage dans son contexte, dans son ensemble, et que tu réalises que tous les chrétiens sont des enfants de Dieu, on avance humblement par la foi, on est tous imparfaits, on est tous pécheurs, on est tous sauvés par grâce, et on continue tous à avancer seulement par la grâce de Dieu dans la foi. Quand tu réalises, là, à la lumière de Matthieu 18, quand tu réalises que dans la famille de Dieu, il n'y a pas de place pour de la compétition. Qui est le meilleur? Qui est le plus grand? Je veux dire, le plus grand, c'est le plus petit. La seule manière d'être le plus grand ici, c'est d'être le plus petit. Quand tu réalises là et que tu vois ton frère qui commence à glisser, tu vois ta sœur qui commence à glisser, à retourner vers les péchés de son ancienne vie, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester en silence? Est-ce que je vais rester en silence? Est-ce que je vais me taire? Ou est-ce que je vais chercher à aller vers ce frère, à aller vers lui, à lui tendre la main? Au verset 15, Jésus dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Le verbe qui est là pour reprendre serait mieux traduit par « convainc-le ». Le mot grec qui est là signifie « expose-lui la situation ». Convainc-le de la situation. Nous avons souvent besoin les uns des autres pour voir ce que nous n'arrivons pas à voir dans notre propre vie. Alors, si je vois mon frère ou ma sœur qui a péché, ça se peut très bien qu'il ait besoin que j'intervienne dans sa vie pour le convaincre, pour exposer quelque chose qu'il n'arrive pas à voir à ce moment-là. Peut-être parce qu'il ne veut pas le voir, peut-être parce qu'il n'arrive pas à le voir. Mais il a besoin de mon intervention pour l'aider à voir ce qu'il n'arrive pas à voir par lui-même. Et c'est ça l'idée de Jésus ici. Va et convainc-le. Et la traduction la plus juste, c'est probablement « si ton frère a péché contre toi ». C'est probablement ça, certains de vos Bibles ont ça. Alors, si ton frère a péché contre toi, va et convainc-le. Va, aide-le à voir ce qu'il a fait. Et si tu réussis à l'aider à voir ce qu'il a fait, et qu'il t'écoute, il se repent. Tu as gagné ton frère. Tu as gagné une des brebis qui est en train de s'égarer. C'est ça que Jésus est en train de dire ici. Tu as gagné un de tes frères qui était en train de s'égarer. Alors, lorsque je vais voir une personne qui est en train de pécher, je peux avoir toutes sortes d'attitudes, autres que celles-là. Je pourrais regarder ce frère qui est en train de pécher, puis... si je suis rempli d'orgueil, je vais commencer à le juger. Je vais commencer à dire, moi, je ne ferai jamais ça. Garde donc ce qu'il fait. Moi, je ne ferai jamais cela. Au lieu de voir un petit enfant de Dieu comme moi et de m'identifier avec sa faiblesse, Je vais prendre la distance. Il n'est pas fait comme moi, celui-là. C'est un pécheur. Il fait des choses que moi, je ne ferais pas. Et je vais prendre la distance. Orgueil. C'est de l'orgueil. Et c'est ça qui va m'amener à juger qu'il est plus petit que moi, qu'il est inférieur et qu'il fait des choses que je ne ferais pas. Si je manque d'amour, je pourrais alors commencer à le mépriser. Ou pire encore, faire du commérage. Même du commérage de SS, de super spirituel. Hey, tu ne sais pas ce qui arrive avec Yannick, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Aucune prière, aucune larme et surtout aucune intervention. Mais c'est le diable qui est en train de travailler à travers toi. Mais c'est le diable qui est en train de rentrer dans l'Église. C'est vrai. C'est tellement facile. Si vous saviez comme Dieu m'a parlé cette semaine en étudiant le passage, à moi, tellement facile, tellement facile. Mais lorsque je réalise qu'on est tous des pécheurs, sauvés par grâce, gardés uniquement par la grâce de Dieu, qu'est-ce que je vais faire si je vois mon frère qui est en train de glisser? Est-ce que je vais le mépriser? Est-ce que je vais l'ignorer? Est-ce que je vais faire comme si je n'avais rien vu? Est-ce que je vais le juger et penser que je suis tellement supérieur que moi, je ne ferai pas cela? Ou est-ce que je vais avoir la perspective de Jésus? Je vais le voir comme une des brebis du Seigneur qui est en train de s'égarer et qui mérite que je mette tout de côté pour aller le regagner à Christ. Pour aller gagner mon frère et le ramener dans la bergerie par la grâce de Dieu. La réponse de Jésus est simple. Hein? Gagner mon frère. Laisse de côté tous tes sacro-saints principes de vie privée et va lui donner un coup de pouce, parce qu'il est en train de glisser. Il est en train de s'éloigner de Christ. Va vers lui. Évidemment, pas n'importe comment. Alors, soyons concrets, d'accord? Je vous donne 5 conseils pratiques. Si je m'étais promené partout dans Matthieu, j'aurais pu aller chercher plusieurs de ces conseils-là. Certains d'entre eux vont vous revenir à l'esprit, même avec le passage. Je vois qu'un frère ou une sœur, je vois que mon épouse, mon mari, a péché. Un ami dans le Seigneur, quelqu'un dans l'Église. Je vois qu'il a péché. Je veux vivre ce que les Écritures me disent. Qu'est-ce que je commence par faire? Me taire. La première chose que je dois faire, c'est me taire. C'est la première affaire. Regardez avec moi le verset 15. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Personne d'autre. Je pense que ça laisse la place pour Dieu. Puis la prière. Mais même pas mon épouse. Oui, mais Yannick, tu sais, je dis tout à mon épouse. Oui, je sais que tu dis tout à ton épouse. C'est pour ça que des fois, je suis mal à l'aise. Non, mais tu sais, c'est parce que j'ai quelques amis, puis il fallait qu'on prie pour toi, tu sais. C'est pas ça que le texte dit. Non, mais je vais aller le dire au pasteur, parce que tu sais, je veux dire, moi, je suis maladroit. Mais le texte n'a pas dit ça. Voyez-vous la grâce de Dieu envers le frère ici? On est tous des pécheurs, puis le Seigneur préserve encore le frère dans sa réputation, la sœur dans sa réputation. Oui, mais Seigneur, Yannick, tu ne peux même pas imaginer le dommage que je pourrais faire. Je suis tellement maladroit. OK, alors premièrement, me taire. Je pense que ça laisse la place pour en parler à Dieu. Deuxièmement, la prière. Aller dans la prière pour demander à Dieu de me donner de la sagesse et de l'humilité. Définitivement, j'ai tellement besoin de sagesse. C'est déjà tellement difficile de se faire reprendre par quelqu'un, qui est maladroit, orgueilleux, puis qui s'en vient avec un 2x4. C'est pas mal plus difficile. Alors, définitivement, la prière. Je vais aller dans la prière. Me taire, aller dans la prière pour demander à Dieu de la sagesse, de l'humilité dans mon intervention, dans ce que je vais faire auprès de lui. Troisièmement, je vais m'assurer qu'on ne parle pas d'une question d'opinion ou de préférence. Romains 14 adresse cette question-là. Je ne vais pas reprendre un frère parce que il fait quelque chose que j'aime pas. Non, c'est juste une belle occasion d'aimer, c'est tout. C'est juste ça. Alors peut-être que c'est juste une question d'opinion, peut-être que c'est juste une question de préférence. Il n'y a peut-être aucun péché là. Alors je vais aller dans la parole pour dire, est-ce qu'il y a un péché? Est-ce que c'est vraiment ça ou on parle de préférence? Il y a beaucoup de liberté, vous savez, dans la foi. Allez lire Romains 14, c'est vaste en titi les libertés. Très, très vaste. Alors, je vais m'assurer qu'on parle d'un péché avant d'intervenir. Parce que je pourrais l'attrister pour rien. Quatrièmement, ben, si on se rappelle de l'exhortation de Jésus, je vais commencer par enlever la poutre que j'ai dans l'œil avant d'aller enlever la paille qu'il a dans l'œil. Parce que vous savez, lorsqu'on intervient dans la vie d'un frère, c'est un petit peu une chirurgie qu'on s'en vient faire. J'aime tellement l'illustration de Dave Harvey dans son livre sur la vie de couple. C'est un petit peu comme une chirurgie que je m'en viens faire. Alors imaginez que vous êtes dû pour une chirurgie et le chirurgien tient son scalpel. Mieux que ça encore, il tient, vous savez, la petite scie électrique pour couper le sternum? Zzz! Le chirurgien s'en vient, mais il a une poutre dans l'œil. Il a une poutre dans l'œil, puis il s'en vient faire l'opération. Ça fait peur. Alors, je vais premièrement aller enlever la poutre que j'ai dans l'œil. Je vais aller voir dans ma propre vie s'il n'y a pas des péchés qui ressemblent à ceux-là. Aller les confesser à Dieu. Aller dire au Seigneur, « Seigneur, moi aussi, je suis pécheur. » Puis ce que j'ai vu dans sa vie, ça m'a provoqué, ça a créé une irritation chez moi, mais dans le fond, je suis exactement pareil, puis je pense que c'est pour ça que c'est venu me chercher. Puis je vais te demander pardon, Seigneur. Et je vais aller enlever cette poutre qui va faire de moi une personne gracieuse. Esther le sait, lorsque j'ai enlevé la poutre, avant d'essayer d'enlever la paille dans son œil, et lorsque je n'ai pas enlevé la poutre. Avant même que j'aie ouvert la bouche, elle a déjà reçu mon 2x4 en plein visage. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'humilité. Il y a du jugement, il y a de l'orgueil, il y a du mépris. Me taire, prier. M'assurer qu'il ne s'agit pas d'opinion, mais qu'il s'agit vraiment, non pas de préférence ou d'opinion, mais d'un péché selon les Écritures. Commencer par enlever la poutre qu'il y a dans mon œil, afin d'aller chercher cette humilité, reconnaître que je suis moi-même pécheur. Cinquièmement, je vais examiner mes motifs. Pourquoi est-ce que je vais aller vers cette personne? Pourquoi est-ce que je vais aller vers elle? J'ai été offensé. Je pense que le texte ici dit, si ton frère a péché contre toi, c'est ça que je pense que le texte dit. Et vous savez, dans ces cas-là, c'est très, très facile d'intervenir pour faire justice. On m'a offensé. Tu as un rendez-vous avec le serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu a été offensé. En plus, moi, je suis pasteur. Imaginez quand le pasteur fait ça avec son épouse. Ça peut devenir assez malin. Hein? C'est quoi mes motifs? Est-ce que je veux rétablir la justice? Je veux me faire justice? Est-ce que c'est ça mes motifs? Dans le contexte ici, le seul bon motif, Jésus nous le donne, c'est de vouloir gagner mon frère. C'est le seul bon motif dans le passage ici. Dans ce texte-là, c'est le seul bon motif, c'est de vouloir aller gagner mon frère. Il a fait une offense contre moi. Si j'ai enlevé la poutre que j'ai dans l'œil, je vais pouvoir intervenir dans sa vie avec beaucoup de grâce pour gagner mon frère. Alors, je vais pouvoir être utile. Si je n'ai pas pris le temps de faire ça, ça peut tourner au vinaigre. Et c'est très important de prendre le temps de faire ces quelques moments où je cherche cette humilité avant d'intervenir, parce que vous savez quoi? En plus, ça se peut que vous vous trompiez. Puis vous allez vers cette personne pour découvrir, en fin de compte, qu'il n'en avait pas de péché. Mais si tu n'as pas enlevé la poutre qu'il y a dans ton œil, je te garantis que tu vas pousser plus fort pour le convaincre qu'il y en a un péché. Tu ne seras pas capable d'entendre, pas capable de voir, on s'entend. Et tu vas chercher à le convaincre qu'il y en a un péché. Alors, il va peut-être en avoir un, en fin de compte, après la discussion. Mais je veux dire, quand je m'en vais avant mon frère, tu sais, je ne suis pas Dieu, moi, là. Je suis convaincu que, mais je m'en viens, puis je veux l'aider à voir quelque chose. Ça se peut que ce soit lui qui m'aide. Et ça m'est arrivé, je peux vous le dire, plus qu'une fois. Et si mes motifs étaient bons, ça allait bien. Si mes motifs n'étaient pas bons, OK, je vais t'en sortir 6 autres versets. On va le faire à la pointe. Et pas à pas, je vais avancer avec la parole de Dieu. Une fois que j'ai réfléchi, j'ai prié humblement, je vais aller vers mon frère ou ma sœur pour l'aider à voir quelque chose qu'il n'a peut-être pas vu dans sa vie, l'aider à voir quelque chose qu'elle n'a peut-être pas vu. Et s'il voit son péché et s'il l'admet, tu as gagné ton frère et ta sœur. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Tu as gagné un frère ou une sœur. Jacques dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur dans la voie où, de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche souvent. Ça marche beaucoup. Je le vois hebdomadairement dans notre maison, dans notre foyer, où Esther va venir me voir puis elle va m'aider à voir un péché que je n'ai pas vu. Et vous savez quoi? Je vais lui demander pardon. Ah, des fois, la première fois, c'est vite, vite. Ah, je te demande pardon, je te demande pardon. Ouais, mais le Saint-Esprit n'a pas dit son dernier mot. Il continue à me convaincre, puis je reviens, puis je dis, chérie, je te demande pardon. C'est pas bien ce que j'ai fait. C'était pas correct. À toutes les semaines, je le vois dans notre maison. Esther va venir me demander pardon, je vais lui demander pardon. Elle va m'aider à voir des choses dans ma vie, je vais l'aider, on le fait avec les enfants. Je le vois dans l'église constamment, avec les gens qui servent dans des ministères, dans des petits groupes, au conseil. Cette année, j'ai demandé pardon au conseil, parce qu'à un moment donné, dans une réunion, la moutarde commençait à me monter au nez. Alexandre, il est là, tu t'en rappelles, Alex? J'ai demandé pardon au conseil. Les frères m'ont fait grâce, m'ont pardonné. Ça marche, je vous le dis. La majorité du temps, Dieu règle les choses à ce moment-là. Simplement, si on le fait avec humilité, avec douceur, avec grâce, avec bonté, le Seigneur parle et il le fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais si mon frère n'écoute pas? Et il arrive que mon frère n'écoute pas. Moins souvent, beaucoup moins souvent, mais ça arrive. Et là, je vous dis, s'il reste une idole de la vie privée dans votre vie, attachez votre truc, ça déménage. Mais tu vas aller vers un frère, une sœur, plus sage que toi, plus mature que toi, et idéalement près de l'autre personne dans son entourage. Ça, c'est déjà faire preuve de beaucoup de grâce. Et tu vas leur demander de venir avec toi rencontrer cette personne. Et encore une fois, bien souvent, tout se règle là. Tu as gagné ton frère. Il revient à la maison souvent. Maintenant, ça se peut que tu sois débouté aussi. Ça se peut aussi que ces deux personnes plus sages que toi se révèlent en effet être beaucoup plus sages que toi. Et quand vous écoutant parler, ils disent, « Ben, sais-tu, non, Yannick, je pense que tu cours après du vent. Tu as vu quelque chose qui n'est peut-être pas là. » Ou bien ça se peut qu'il te dise, regarde Yannick, c'est peut-être, mais le Seigneur n'a pas rien mis en lumière. Continue à prier pour le frère si c'est ça. Ou peut-être que non, c'est toi, en fin de compte, qui as péché. Et c'est possible que ça tourne comme ça. Alors, il faut le faire avec les bons motifs. Mais souvent, encore une fois, tu viens de gagner un frère, tu viens de gagner une sœur. Dans d'autres situations, le frère n'écoute pas encore. Et là, il va être décidé que ça doit être apporté à l'Assemblée, à l'Église de Christ. On soumet la situation aux anciens, si les anciens ne sont pas déjà impliqués à ce moment-là. Et les anciens tentent de gagner le frère, c'est ça qu'ils vont faire à leur tour. Ils vont lui donner un temps, ils vont tenter de gagner le frère. S'ils ne les écoutent pas en réunion de membres, la chose va être apportée à l'Assemblée. Souvent, à ce moment-là, la personne a déjà quitté l'Église. Elle ne veut plus marcher dans l'Église. Alors souvent, à ce moment-là, ce qui reste à faire vraiment, c'est de continuer à prier. S'il y a des gens qui sont proches, d'essayer d'intercéder auprès de lui et de le retirer de la liste de membres, littéralement. Et si j'ai l'opportunité de voir cette personne encore, de lui prêcher l'Évangile. Parce que c'est avec l'Évangile que cette personne va revenir à la maison, si c'est un enfant de Dieu. Et c'est avec l'Évangile que cette personne va entrer dans la bergerie, si elle n'avait pas encore saisi l'Évangile avant. Lui prêcher encore l'Évangile. Voyez-vous, Jésus confie un rôle extrêmement important à l'Église ici. 17 à 20. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est lourd, ces paroles-là. Lourd de conséquences. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous, je m'excuse, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez le rôle de la communauté ici quand je vous parlais au début de ce proverbe sénégalais? Ça prend tout un village pour élever un enfant. Ça prend toute une église pour faire un disciple de Jésus-Christ. C'est le rôle de la communauté ici qu'on voit apparaître. Et il est vraiment important. Cette communauté de foi est là pour aider chacun à voir sa propre vie spirituelle. Si je me fais des accroire dans ma vie à moi, en vivant dans le péché, loin de la parole de Dieu, et que j'essaie de me convaincre que tout va bien, l'église a la responsabilité de me dire, Yannick, tu te trompes. Tu es en train de te berner toi-même. Tu es en train de te faire des accrocs. Tu dis, chrétien, c'est pas évident à ce moment-ci dans ta vie. L'Église a cette grande responsabilité de confronter avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de grâce cette personne et de prier pour elle et de lui dire, tu ne vis pas comme un disciple de Jésus-Christ. Et je vous le dis, c'est tout un message dans notre société, ça. Autrement, qui lui dira, selon vous? Si l'Église ne lui dit pas, qui lui dira? Les nouvelles à la télévision? Un bon livre sur la pensée positive dans une librairie? Ben non, il va dire, tout va bien mon grand, tu n'as pas de péché dans ta vie. Trouve juste la puissance en toi. Qui va lui dire? Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » L'Église de Jésus-Christ est ce rempart qui est là pour nous aider à voir notre propre vie à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsqu'une Église qui suit la parole de Dieu, qui cherche à vivre humblement à la lumière des principes de la parole, dit à une personne, « Ta vie ne porte pas le parfum de Christ actuellement. » Cette personne devrait entrer en elle-même et se repentir. Parce que Jésus dit dans ce passage qu'il est présent au milieu de l'Église. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Jésus-Christ lui-même est fort probablement en train de parler à cette personne à travers l'Église. Et le jugement de l'Église, c'est le jugement de Jésus probablement, qui est déjà déposé sur cette personne. Je sais que c'est gros ce que je vous dis là. Mais voyez-vous, pour accepter un passage comme celui-là, nous devons comprendre et nous rappeler que Jésus-Christ est venu mourir sur une croix pour sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'est pas venu pour nos beaux yeux. Jésus n'est pas venu pour nous amener un plan de pensée positive. Jésus n'est pas venu pour nous aider à avoir des principes qui vont faire que ma carrière va prospérer. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient sous la condamnation. Et il est venu donner sa vie en sacrifice, versant son sang pour ceux qui étaient perdus. Alors, si je vois mon frère, qui se dit mon frère, et qui est en train de marcher, pas comme mon frère, mais qui veut se le faire croire, est-ce que je vais fermer les yeux comme Église? Ou est-ce que je n'ai pas cette responsabilité de représenter Jésus maintenant? Qui est venu pour sauver ce qui était perdu, et moi d'aller gagner un frère qui est en train de s'éloigner. J'ai cette responsabilité. Alors, comment on vit ça en Église? Et je termine avec ça. Comment est-ce qu'on vit ça en Église? Mais premièrement, en saisissant que les versets 15 à 17 sont dans un chapitre complet. N'essayez jamais d'appliquer les versets 15 à 20 sans essayer d'appliquer tout le chapitre 18 au complet. Vous allez faire du tort. J'oserais dire presque autant que si vous ne faites rien. Alors, en se rappelant que ces versets-là sont dans un chapitre complet qui nous parle de pardon, de grâce, d'humilité et d'amour. Et je vous donne un truc pratique, d'accord? Partez pas d'ici, s'il vous plaît, ce matin en disant, « Bon, OK, Yannick m'a dit qu'il fallait que j'aille régler le problème dans la vie de 4-5 frères que je connais qui sont dans le péché. » C'est parce que si ça ne fait pas partie de votre culture d'avoir ces relations de transparence, ça se peut que ce soit assez drastique comme conversion dans votre vie. Ça se peut que ce soit vu comme un bazooka qui commence à tirer partout. Alors, je vous donne un conseil, un truc pratique. Commencez par instaurer autour de vous une culture d'humilité. Entrez dans une saison de votre vie où vous allez vers vos proches et vous leur demandez, « Est-ce que tu vois des choses qui t'inquiètent dans ma vie? » Commencez par entrer dans une saison où vous invitez la correction des frères et sœurs autour de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète dans ma vie et que tu n'as pas osé me dire dernièrement? Ça se peut que vous en surpreniez quelques-uns. Mais faites-le assez longtemps et avec assez d'humilité pour écouter les corrections. Et vous allez voir, lorsque Dieu va vous montrer quelque chose par son Esprit Saint et qu'il va vous demander d'intervenir dans la vie d'un frère, vous allez être reçu comme un petit enfant qui vient humblement faire du bien à son frère. Et si par la grâce de Dieu, comme je le vois tellement souvent, le Saint-Esprit bénit cette démarche et que ce frère se repent, vous avez gagné un frère. Vous avez gagné une sœur, un petit enfant du Père Céleste. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu savais t'attaquer à toutes les idoles. Tu étais, Seigneur, littéralement un fracasseur d'idoles. Et ce matin, Seigneur, tu viens d'en frapper quelques-unes. Je te prie dans ta grâce de nous enseigner l'humilité, Seigneur, afin que nous soyons connus comme des gens qui cherchons la correction, qui acceptons les exhortations humblement, qui écoutons attentivement. Et lorsque tu nous montres des choses, Seigneur, qui nous repentons rapidement. Seigneur Jésus, je te prie de nous faire grandir en humilité, que nous soyons les plus petits à nos propres yeux et les serviteurs de tous les frères et sœurs. Et Seigneur Jésus, si ce matin un visiteur est parmi nous, ou même quelqu'un qui fréquente cette église, et qui est scandalisé par l'intervention que tu demandes ici, Seigneur. Viens le convaincre, la convaincre, que tu es venu nous sauver, Seigneur, de quelque chose de très sérieux. Et que ça vaut la peine qu'on s'aime jusqu'à aller reprendre un frère et une sœur. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.